Merci d'être là. Je suis pas le modérateur, mais pendant que le modérateur a des problèmes techniques, j'occupe un peu l'espace sonore. Donc nous allons vous parler et dialoguer avec vous autant que possible autour de quelqu'un qui nous est cher, par-delà évidemment la mort, qui est André Herbélan Kortsteiner. Et je crois que Hervé et Olivier ont des petites surprises. Est-ce que les surprises sont au point maintenant? C'est bon?
Alors, il y a un diaporama que je ne vais pas réussir à lancer, mais tant pis, je le proposerai en ligne demain, si ça vous intéresse. J'avais réussi à regrouper les couvertures d'absolument toutes les éditions de tous les romans d'André Herbélan et Kortsteiner, mais on ne va pas pouvoir les voir. Ça n'est pas très grave. Je vais vous faire une brève... Oui, vas-y, essaye. Je vais très brièvement vous rappeler en quelques dates... qui fut André Herbélan. Il est né en août 1922 à Bécon-les-Bruyères. Son père, soudeur, était un grand amateur de livres, anarcho-syndicaliste. Comme l'a raconté André Herbélan, son père était matérialiste en ce qui concernait Dieu, mais plutôt mystique en ce qui concerne la vie future. Vers 12 ans, par exemple, il m'avait fait lire « Les maisons hantées » de Camille Flammarion et je croyais aux fantômes durs comme fer. Il pense déjà à écrire, puisqu'à 14 ans, il commence un roman où il est question d'insectes géants. Il traverse la guerre tant bien que mal, échappe de peu à un départ pour l'Allemagne, pour le STO. 15 jours après le débarquement, il manque de peu d'être fusillé comme otage. Il a tout juste 22 ans. Il devient instituteur, il enseigne pendant 2 ans, et en 1947 commence des études de médecine. L'envie d'écrire ne l'a pas quitté, et il publie son premier roman de science-fiction en 1953, « Alerte aux monstres », sous le pseudonyme de Kurt Vargar. Mais c'est en 1956 qu'il commence à publier au Fleuve Noir des romans fantastiques dans la collection Angoisse, sous le pseudonyme de Kortsteiner. Il expliquera qu'il a choisi ce pseudonyme aux consonances germaniques, un peu par esprit de contradiction avec tous ses collègues français qui choisissaient des pseudonymes anglo-saxons. La même année, il soutient son doctorat de médecine et il tiendra un cabinet de médecin généraliste jusque dans les années 70 dans le quartier des Halles. Son premier roman de science-fiction dans la collection Anticipation paraît en 1958. Il s'agit de Menaces d'outre-terre. En 1963, il publie sous son propre nom Le manuel du savoir mourir, un livre d'humour noir tout à fait étonnant, illustré par son ami Roland Topor, qui a été réédité plusieurs fois et qui, à mon sens, devrait faire partie de toute bonne bibliothèque. Ce livre reçoit le prix de l'humour noir. Il est remarqué par André Breton, et André Herbélan se rapproche un temps des surréalistes, et puis il rejoint le mouvement Panique avec son ami Roland Topor, où il retrouve des gens comme Arabal et Jodorowsky. En 1965, il travaille pour la première fois pour l'audiovisuel en écrivant les textes de Marie Mathématique, une petite série télévisée dont on vous reparlera tout à l'heure, sur des dessins de Jean-Claude Forest, et les textes d'André Herbélan sont dits par Serge Gainsbourg. À la même époque, sous le pseudonyme de Kurt Dupont, il l'écrit dans les pages de Harakiri, comme certains de ses amis le font également, notamment Philippe Curval et Roland Topor. À la fin des années 60, à la Coupole, il fait la connaissance d'un jeune comédien de 35 ans, plein de promesses, qui se cherche encore un personnage pour exister à l'écran. André Herbélan lui dit « Ouvrez donc les caractères de la Bruyère et relisez Ménalque ». Le comédien en question s'appelle Pierre Richard, et Ménalque, c'est le personnage du distrait. Herbélan offre donc à Pierre Richard sur un plateau ce personnage auquel le comédien sera identifié pour tout le reste de sa carrière. Ensemble, ils écrivent le scénario du distrait que réalise Pierre Richard et qui sort en 1970. 2 ans plus tard, il récidive avec le film Les Malheurs d'Alfred. En 1973, Gérard Klein ouvre les portes de la prestigieuse collection Ailleurs et Demain à André Herbélan en publiant le roman Tunnel, premier roman de science-fiction qu'il publie sous son propre nom. En 1975, Ailleurs et Demain réédite le diptyque Orthog dans la collection Ailleurs et Demain les classiques. En 1975, André Herbélan signe son premier grand scénario pour Jean-Pierre Mocky pour le film L'Ibis Rouge, le début d'une collaboration qui va durer 40 ans. Il dirige brièvement la collection Gore au Fleuve Noir. En 1984, paraît Mémo chez Présence du Futur, un roman qui remporte en 1985 le grand prix de la science-fiction française. À la fin des années 2000, André Herbélan, égal à lui-même, octogénaire, continue de fréquenter chaque semaine le mythique déjeuner du lundi, un rendez-vous de la science-fiction qui existe depuis les années 50. Il aime à rappeler aux plus jeunes qu'il a vu le premier King Kong à sa sortie française, Il établit avec malice des parallèles entre l'actualité politique du moment et ses souvenirs de l'occupation. Bref, il joue de son statut de figure éternelle de la science-fiction française et tout le monde fait comme s'il serait toujours là. Début 2009 encore, il apporte à chaque déjeuner du lundi sur une clé USB la sauvegarde de son roman en cours qu'il est en train de saisir. Il continue à écrire jusqu'aux soirs de sa vie, des scénarios pour Jean-Pierre Mocky et des nouvelles. Il publie une nouvelle dans l'anthologie Retour sur l'horizon. Il meurt à Paris le 10 novembre 2016, laissant 44 romans, dont 16 de science-fiction, 30 films, une œuvre poétique considérable et largement inédite. Nous allons donc aujourd'hui rendre hommage à André Rouellan, Kutsteiner, et pour cela j'ai autour de moi Gérard Klein, écrivain, essayiste, éditeur, qui fut pendant pas loin de 6 décennies l'ami d'André Rouellan, qui fut également son éditeur. Natacha Vazder, spécialiste de science-fiction française, auteur du livre « Ces Français qui ont écrit demain », également membre du jury du prix des Imaginales. Simon Bréant, lui aussi spécialiste de littérature de science-fiction française, auteur du livre « La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature », membre du comité de rédaction de la revue Res Futurae. Et Olivier Cotte, réalisateur, infographiste, traducteur, historien du cinéma d'animation, auteur du livre « 100 ans du cinéma d'animation », également scénariste de bande dessinée. Pour commencer, je vais donner la parole à Gérard Klein qui va nous parler de sa rencontre avec André Rouellan et de leur longue amitié.
Oui, plutôt que de ses livres, non pas que je les ignore, je préférerais dire quelques mots à propos de l'homme André Rouellan, qui a été un de mes plus grands amis durant probablement 60 ans, en effet. Avec Jacques Sternberg, ça a été mes deux plus grands amis avec qui je n'ai jamais eu le moindre conflit, bien que je les ai édités l'un et l'autre. J'ai rencontré André Rouellan, je crois, en 1958 à la Maison de l'Amérique latine lors d'un cocktail donné par de Noël, où je venais, ou bien où j'allais, je ne sais plus, sortir Les Perles du Temps, et je venais également récemment de publier Le Gambit des Étoiles chez Hachette. Alors, nous étions tous les deux un peu perdus dans ce monde des littérateurs et de l'édition, mais nous nous sommes rapidement trouvés. Nous nous étions lus l'un l'autre et nous avons si bien sympathisé que je crois que nous n'avons pas dessoulé pendant 2 ou 3 jours. J'ai dû loger chez lui, enfin j'avais un pied à terre à Paris. Mais enfin bref, on a bu, causé et bu. Et puis on est resté donc très très amis Alors, André habitait à l'époque une minuscule de pièces située rue Madame, dans un sixième, enfin une chambre bonne, dans un sixième étage sans ascenseur, avec Annie Rouellan, son épouse, sa femme, dont je dirai aussi un mot. On arrivait à tenir dans cet endroit minuscule des véritables banquets. Je crois qu'on arrivait à s'installer en mettant des planches sur des chaises jusqu'à 10, 12, peut-être 20. Enfin, c'était absolument incroyable. On festoyait, notamment avec une cuisine qui était préparée par l'ami, disons les choses, l'amant d'Annie Rouellan, qui s'appelait Touré, qui était un Guinéen très sympathique, et qui remplaçait la carotte dans un plat par le piment le plus violent. Alors, il fallait écraser ça avec du liquide. Et puis, il y a eu d'autres festivités mémorables qui se tenaient dans les propriétés qu'Annie, qui était une aventurière, une femme très, très courageuse et qui n'avait pas froid aux yeux. Elle avait fait des études de psychologie, comme j'en ai fait par la suite, et elle a beaucoup travaillé en Guinée, en Afrique, pour un producteur, dans le cadre d'une mine d'aluminium, d'un des grands producteurs d'aluminium, pour la sélection du personnel, enfin l'encadrement, enfin, etc. Et elle avait hérité de propriétés en Normandie assez étonnantes, un manoir, une espèce de petit château qui s'appelait... le nom va me revenir. Alors, qui était une grande bâtisse splendide du XVIIIe siècle, probablement, passablement décati, et où nous nous réunissions pour de longs week-ends. Il y avait Curval, il y avait enfin, des tas de gens qui Anne Tronche, enfin, etc. Il y avait des tas de gens qui venaient. Et nous avons fait là, mon ami et ma femme maintenant, Jackie Paternoster, et nous avons fait là des fêtes absolument extraordinaires. Il y a un autre endroit qui n'était pas moins étonnant, c'était Longla. Là, le nom m'est revenu. C'était une propriété où j'ai passé l'été 1969, alors que la collection Ailleurs et Demain démarrait tout juste, à réécrire, il n'y a pas d'autre mot, comme je pouvais, la traduction du Fritz Leiber, le premier titre, Le Vagabond. On m'avait donné une traduction pas très bonne, mais alors nous étions dans une ce que les Américains du Nord appellent une jungle froide, c'est-à-dire en Normandie, comme la terre est riche et qu'il y a de l'eau, tout pousse. Annie Ruelland prétendait qu'on pouvait planter une chaise et qu'elle finirait par fleurir. Alors je suis arrivé là avec Jackie c'était une brousse absolument impénétrable. Nous étions venus à la demande d'Annie de façon à assister à l'installation de l'eau courante. Mais jusqu'à ce que l'eau courante arrive en un point d'eau, nous allions au puits. Il y avait quand même un peu d'électricité et on pouvait se faire un feu de bois. Enfin, tout ça pour dire que j'ai participé de la vie d'André, d'Annie, que j'ai très bien connue. Bon, nous avions en commun une formation de psychologue, entre autres choses. J'ai très bien connu aussi une autre femme qui a joué un très grand rôle dans la vie d'André, qui était Rosine. Mais malheureusement, Rosine est morte jeune d'un cancer du sang. On espérait la sauver, mais enfin, on n'a pas réussi, ça l'a terriblement affectée. Et puisque je parle des femmes, j'en citerai une troisième que j'ai très peu connue, mais qui l'a accompagnée jusqu'à ses derniers jours, et qui s'appelle Lise Lecoeur, que j'ai découvert d'ailleurs. Enfin, je connaissais son existence, j'avais même son numéro de téléphone en cas d'urgence. Je connaissais son existence, mais je ne l'ai découverte qu'au moment des funérailles d'André. C'était un homme extraordinaire, un homme extrêmement chaleureux. Alors je dirais aussi que c'était un excellent médecin. Je le sais parce qu'il a exercé ses talents sur moi et sur certains de mes proches. Mais il fallait voir dans... il occupait un appartement. Alors là, il exerçait, non pas évidemment rue Madame, mais il exerçait rue de la Reynie, à côté du Châtelet. Il exerçait rue de la Reynie et il avait un immeuble qui sentait épouvantablement le fromage parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait un marchand en gros de meules de fromage, je ne sais quoi. Et alors il fallait voir, quand je venais le voir vers 2h ou 3h de l'après-midi, toute une foule qui était assise sur les marches et qui attendait que le bon docteur veuille bien ouvrir sa porte. Bon, je vais en rester là à un détail près parce que il faut hélas que je laisse la parole à d'autres. Mais je voudrais pas dire simplement un mot à propos d'Hortog. J'ai réédité avec un très grand plaisir Hortog et puis Hortog et les ténèbres. Mais il se trouve qu'il y a eu les fragments d'un texte intermédiaire. Et comme j'ai l'habitude, dans la mesure du possible, de faire des intégrales, par exemple quand j'ai réédité les Farmers du fleuve dans une collection malheureusement qui n'a pas duré, j'ai repris un certain nombre de nouvelles qui étaient inédites en France, de Farmer qui était lié au thème du fleuve. Alors j'aurais aimé publier ces textes intermédiaires. Cela dit, c'était le projet d'un troisième ou d'un roman qui aurait dû s'intercaler entre les deux. Mais quand nous avons regardé ça, André et moi, nous avons décidé qu'il valait mieux laisser reposer ces textes dans leur tiroir. Et beaucoup plus récemment, Nemos, qui a réédité également les deux orthogues, a pris la même décision. Enfin, je ne sais plus s'ils m'ont posé la question ou pas, mais bon. Donc, les historiens pourront peut-être un jour se pencher sur ces textes, mais je crois qu'il était préférable pour la mémoire d'André et celle d'orthogue de les laisser reposer tranquillement. Enfin, voilà.
Merci.
Tout ce que je peux dire d'un très très grand ami.
Merci Gérard. Je vais donner la parole à Natacha qui va peut-être nous dire en quelques mots quels sont les grands genres dans lesquels André Orwellan et Kuhlsteiner se sont illustrés.
Oui, brièvement en fait, parce que je crois qu'on pourrait quasiment en faire un sujet de thèse. Alors juste un mot à propos de la belle édition d'orthogue donc d'André Ruelland, Kuhlsteiner donc chez Robert Laffont. Il y a un texte de préface qui je trouve est un bon texte et introduit bien texte de Jacques Guamard qui s'appelle Modeste précis d'orthogologie portative. Voilà, et si vous avez l'occasion de lire ce texte. Je trouve que c'est un texte qui est vraiment tout à fait intéressant, de toute façon que je vais citer très très brièvement.
D'ailleurs, dans ce texte, Guamard dit tout le mal qu'il a pensé du orthogue abandonné.
Oui, tout à fait.
Il le cite et dit qu'il a trouvé ça très mauvais.
Voilà. Donc ça, c'est un texte qui est vraiment vraiment intéressant, je pense, pour bien connaître au moins l'œuvre donc d'orthogue. Donc André Ruelland, comme vous l'a si bien dit, donc notre modérateur, aussi Kuhlsteiner, Kurt Dupont, Kurt Varghar. Avait choisi donc tous ces pseudonymes germanisants évidemment pour se démarquer de ses confrères donc de l'époque, et cette série finalement de pseudonymes lui a permis de naviguer durant toute sa carrière entre tous les sous-genres des littératures de l'imaginaire. Alors évidemment je ne rentre pas du tout ici dans le débat sur est-ce que la science-fiction et le fantastique sont des genres littéraires, non, je parle de sous-genres évidemment pour simplifier donc pour notre public. Et donc en réalité les textes donc d'André Ruelland ou de Kuhlsteiner ou de Kurt Varghar sont pour moi des textes qui sont un petit peu hybrides. Alors on pourra en discuter éventuellement un peu, c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont à la fois, même si je dirais que le point de départ est un point de départ science-fictionnesque, ce sont des textes qui sont toujours marqués par le fantastique, voire la terreur. Et c'est notamment en écrivant justement au sein du Fleuve Noir et en écrivant pour deux collections, la collection Anticipation et la collection donc bien évidemment Angoisse, que l'on peut se rendre compte en fait de cette espèce de va-et-vient en fait constant, même au niveau des dates par exemple, entre justement ces deux sous-genres de l'imaginaire, et donc ça crée quand même une certaine hybridation. Voilà. Alors comme le dit donc Jacques Guamard dans son modeste précis d'orthogologie portative, hein, cette préface à l'édition d'Orthogue, il peut rester, je le cite, il peut rester avec les honneurs un galérien de la machine à écrire, il peut se laisser séduire par le poison vénéneux de l'ambition littéraire, mais il opte pour une troisième voie, ni le roman standard, ni le roman ambitieux, mais l'épopée, que sera donc le sigle d'Orthogue, une sorte de fantaisie futuriste qui se passe donc au 30e siècle, pardon, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et d'un point de vue, je dirais, formel, André Ruelland a quand même assez peu, par exemple, écrit de nouvelles par rapport à sa production romanesque, qui était quand même une très grosse production. Alors, sur la science-fiction, deux mots, parce que moi, je parle juste des genres, et donc mon collègue Simon Bréant, lui, vous parlera évidemment des grandes thématiques qui traversent cette œuvre. Donc, il apparaît sur la scène de la science-fiction dès 1953, avec un roman donc, de science-fiction signé Kurt Varghar, Alerte au monstre. En 1958, un nouveau roman de science-fiction, Menace d'outre-terre, marque son passage à la collection Anticipation, alors que dans le même temps, hein, les autres années évidemment, entre 53 et 58, il va publier donc évidemment dans la collection fantastique donc du Fleuve Noir, Angoisse. Alors dans la collection Anticipation, il va publier notamment Les Océans du Ciel et Les Enfants de l'Histoire, et donc à noter, comme je l'ai déjà dit, que presque tous ces romans, même ceux évidemment qui appartiennent vraiment à la science-fiction, penche du côté du fantastique et, je dirais, de l'œuvre sournoise, je cite Gérard, de force maléfique et incompréhensible, ombrée par la mort. Et évidemment, je reviens de suite sur Hortog, parce que pour moi, c'est une œuvre, si, je pense que s'il faut lire vraiment un roman, si vous ne connaissez pas André Ruellan, s'il faut lire un roman, c'est bien Hortog. Alors pour moi, parce que c'est un récit, évidemment, qui est plein de bruit et de fureur, qui appartient non seulement à la science-fiction, mais aussi à la fantaisie, par le souffle épique qui le traverse. Ce roman, donc, et sa suite, Hortog et les ténèbres, vous avez bien évidemment les deux romans dans l'édition donc, de Ailleurs et Demain, et évidemment dans la dernière collection hein, chez Mnemos, sont au croisement de la science-fiction humaniste et de l'épopée mythique. Et en même temps, et c'est pour ça qu'évidemment c'est intéressant au niveau de cette hybridation des genres, c'est une sorte de quête initiatique, métaphysique, qui mènera le héros, comme Orphée, à explorer les dimensions au-delà de la mort. À noter que ce roman était publié à la fois chez J'ai lu SF en 1959, au Fleuve Noir en 1960, et donc chez Robert Laffont dans la collection de Girard en 1975. Et puis, en termes de science-fiction, il va signer des œuvres un peu plus ambitieuses, comme Tunnel, qui est une ambition sociale en 1973, ou Mémo en 1984. Alors, autre, évidemment, genre, je vais aller assez vite, donc traversé par André Ruellan, le fantastique et donc le grand guignol, puisqu'il publie énormément de romans fantastiques donc dans la collection Angoisse du Fleuve Noir, et il en devient, je dirais, presque un des auteurs principaux, avec des titres comme Le bruit du silence, Fenêtre sur l'obscur, Le seuil du vide et Les pourvoyeurs, que Jean Cocteau qualifiera de sombre fête. 5 titres paraîtront en 56, 6 en 57, 8 en 1958. Vous voyez, 8 romans dans l'année, ça fait quand même une énorme production. Alors, le fantastique d'André Ruellan apparaît comme une exploration des territoires de la mort, flirtant parfois avec le gore, voire le grand guignol, notamment dans son roman Grand Guignol 36-88, publié en 88. Alors, un mot sur la littérature mainstream. André Ruellan a écrit une importante œuvre poétique demeurée inédite pour la plus grande part. Alors Gérard, justement, dans son petit texte d'hommage, avait signalé justement ces éditions, enfin, le peu qui a été édité, quasiment introuvable, je crois.
Oui, je voulais dire un mot, mais... plus tard, mais enfin bon,
oui, après,
à propos,
oui.
Pour André, son œuvre poétique était quelque chose de très important, même si Marie Mathématique mise à part, elle est demeurée très largement inconnue. Alors j'ai suggéré, enfin je voudrais éditer un recueil, une anthologie des textes poétiques d'André, mais il me faut pour ça l'appui de son neveu, là. Comment il s'appelle
Oui, enfin, de son ayant droit. Tout simplement.
Pardon ?
De son ayant droit.
Oui.
Vous cherchez le nom de son neveu, oui.
Mais je connais que lui, mais son nom m'échappe. Enfin, maintenant, et bon, il n'a pas pour l'instant repris contact avec moi. La dernière fois, il. Quand on a regardé un peu les archives d'André, il n'avait pas trouvé d'inédit. Enfin, je ne désespère pas de publier un recueil de ses poèmes inédits ou déjà publiés, ne serait-ce que pour lui rendre hommage. Voilà, je pensais dire ça un peu plus tard, mais puisque c'est dit.
Voilà, et je termine simplement, parce que Hervé vous en a déjà parlé, il l'a déjà signalé, donc évidemment il était également journaliste donc, de l'équipe d'Arakiri, entre 62 et 65. À noter qu'en 62, Pierre Versin fera également donc, partie de cette même équipe, hein, il rentre en même temps donc, que André Ruellan. Il sera également donc, scénariste au cinéma, avec bien sûr la version modernisé donc du caractère de la Bruyère, et il va en proposer donc cette version à Jean Richard en 1969, et puis surtout donc pour Jean-Pierre Mocky qui se l'attache à peu près pour une dizaine de films. Hein. J'ai noté
19,
quelques titres.
19.
Voilà 19, pardon. J'ai noté comme ça quelques titres en passant. 1989, Divine Enfant. 2004, Touriste. artiste au Yes, et puis 2007 le bénévole, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais nous n'avons malheureusement pas le temps d'en parler si tout le monde va avoir la parole.
On va donner la parole à Simon Bréant qui va nous...
Merci, je vais essayer de... D'avoir
vous parlez de quelques grands thèmes qui traversent l'œuvre.
Merci. Alors donc, du coup, je vais pas exactement parler des thèmes transversaux hein, d'André Rueland, Kirchsteiner. Je vais parler surtout de sa science-fiction déjà, parce que je connais absolument pas enfin presque pas ses activités dans le fantastique, dans la collection Angoisse. Ce que je peux juste préciser sur la question de Angoisse et sur la logique de son passage à Anticipation, si je me souviens bien ce que lui-même en disait, c'est que finalement il est passé, alors pas tout à fait par hasard, parce qu'il avait quand même des prédispositions pour la science-fiction, mais disons qu'il était très à l'aise dans la collection Angoisse, sauf que la collection Angoisse vendait extrêmement peu. C'était une danseuse du fleuve noir, comme il le disait lui-même. C'est-à-dire que l'éditeur, son nom m'échappe pour le coup, mais facile, Richard, Richard adorait François Richard adorait cette collection, mais il en vendait très peu. Bon. Et donc, pour essayer de rentabiliser. Oui, alors 5-6 000, ce qui est pas mal pour maintenant, mais qui à l'époque était vraiment... ce qui... Oui, voilà.
Les anticipations se vendaient entre 20 et 30 000.
Voilà. Et à certaines époques, même dans les années 70, on montait encore au-dessus de cela. Bon, donc effectivement, il y avait un problème de rentabilité. On lui a dit, et ce système de fleuve noir dont il a profité d'ailleurs pendant quelques temps, mais par honnêteté notamment intellectuelle, mais pas seulement, auquel il a renoncé volontairement quand il s'est rendu compte qu'il ne produisait plus assez pour rentabiliser cette logique, mais il y avait des systèmes de contrats qui disaient que il était en quelque sorte salarié, enfin il avait une sorte de salaire fixe sous réserve de publier un nombre important de romans par an, mais c'était un peu déconnecté du le fait de publier des romans, il fallait en publier un certain nombre, d'où effectivement la cadence importante de certaines années, mais cadence que finalement il n'a pas tenue au bout d'un moment et qui ne correspondait pas forcément de toute façon à son rapport à l'écriture. Voilà, c'était pas du tout vraiment un écrivain de littérature populaire. Je crois qu'il avait effectivement des aspirations, comme tu citais Guamar tout à l'heure, effectivement, il avait quand même des aspirations en termes de littérature qui se sont manifestées notamment dans Aux Armes d'Orthogue, effectivement, en 1960. Alors, donc quelques mots, en fait, non pas vraiment pour parler des grands thèmes, parce qu'en fait, il y a de très nombreuses choses qui traversent son œuvre, et effectivement, il y a une forme d'hybridation, de rencontre entre différents thèmes. J'aimerais parler peut-être d'un style Rueland, ou style Steiner, mais je superpose les deux. J'avoue que pour moi, l'homme Steiner et l'homme Rueland ne sont pas vraiment à distinguer, même si, bon, on pourrait toujours en débattre, il y a quand même sans doute une petite identité Steiner. Mais par exemple, pour un roman dont je parlais peut-être tout à l'heure, qui est Les Improbables, qui a été publié sous le nom de Steiner, clairement, c'est un roman où, pour lequel il aurait pu souhaiter ne plus utiliser ce pseudonyme, mais il était en contrat avec Fleuve Noir, donc il ne pouvait pas écrire sous un autre nom dans Fleuve Noir. Alors, donc quelques mots pour parler des thématiques, des aspects frappants du style Rueland. Alors, un aspect qui me semble crucial, c'est qui est transversal dans toute son œuvre, c'est un certain rapport à l'humour, sur lequel je ne vais pas forcément m'étendre, parce qu'en fait, c'est à la fois omniprésent et pas forcément de l'humour au sens où il y aurait des blagues en permanence, mais il y a toujours un soupçon de second degré dans la quasi-totalité de ce qu'il présente. C'est-à-dire que il y a des images qui sont assez surprenantes. Je pense par exemple à la récurrence de cette image du grand fœtus tout puissant. C'est-à-dire qu'il aime bien faire apparaître des fœtus dotés de pouvoirs extraordinaires, le prophète qui intervient à la fin d'Aux Armes d'Orthogue, à la fin de Tunnel également, on a le retour de cette figure-là, pour moi c'est pas quelque chose qui correspond à c'est pas tout à fait sérieux. Hein. Et je crois que si on regardait la totalité de son œuvre, y compris l'angoisse, y compris les gores, je pense qu'on aurait toujours ce soupçon possible du fait qu'il écrit ça avec un petit sourire. Bon. Et donc il n'y a rien de surprenant à cet égard.
Peut-être
le fait que...
qu'il y a aussi, si je
oui, permets une
interprétation très brève, son humour s'exprime aussi très souvent, notamment sans doute dans ses romans de science-fiction plus que dans les romans d'angoisse, dans la satire. Mmh. C'est quelque chose dans lequel il s'est beaucoup illustré, qui est très présent, me semble-t-il, dans les sociétés futures.
Tout à fait. Et alors, c'est une bonne transition vers la question, vers la satire et du coup associée chez lui à, disons, une modalité qu'on peut dire dystopique au sens large, hein, c'est-à-dire la représentation de situations futures négatives. Mais la logique de sa représentation de situations futures négatives est toujours associée à l'idée de lutte contre ces sociétés. C'est-à-dire que logique de dystopie écrasante, il y a toujours la possibilité de lutter contre le dispositif. Aux armes d'Orthogue, c'est le récit d'une lutte contre un obscurantisme néo-féodal et la reconquête par des esprits éclairés, Orthogue en tête, la reconquête d'un certain nombre de données scientifiques, d'une aspiration à la conquête spatiale et donc un élan vers le progrès scientifique. De la même façon, dans la quasi-totalité de ces romans, l'opposition qui est une opposition de société dystopique parfois jusqu'au ridicule, au bizarre ou à l'absurde, comme dans Brebis galeuses, cette opposition alors ne triomphe pas exactement parce qu'il y a des textes plus sombres que d'autres, mais en tout cas la dynamique, c'est toujours une dynamique de lutte et il y a toujours un côté un peu absurde pour parler par exemple de la logique dystopique de la société représentée dans Brebis galeuses. L'idée centrale est que le terme de galeux ici est employé au sens quasiment propre, puisque il est question en fait d'inoculer des maladies aux criminels. C'est-à-dire que les gens sont en général, ne sont toujours bien portants, mais lorsqu'ils commettent une infraction, il y a toute une série de maladies qu'on peut leur infliger, maladies qui ne sont jamais mortelles, donc le but n'est pas de condamner à mort les individus, mais c'est de les stigmatiser, parce que le fait simplement d'avoir un rhume fait que tout le monde va s'écarter de vous, et éventuellement de les faire souffrir indéfiniment aussi. Sachant que cet échafaudage-là, qui est une forme de satire effectivement, d'inversion de certaines représentations sociales, cet échafaudage-là évolue comme souvent chez André aussi, il y a une façon de remettre en cause progressivement sa situation initiale d'un point de vue quasiment ontologique. Dans Brebis galeuses, la découverte finale, que je ne dévoilerai pas ici, revient à remettre en cause la totalité de ce qu'on pensait sur les structures mêmes de cette société par un déplacement, un pas de côté radical. Il y a du coup une façon dans sa manière de traiter les questions de science-fiction, qui est justement qui va souvent vers cette logique du pas de côté. Et un de ses meilleurs romans de science-fiction à cet égard, qui est Le Disque rayé, fonctionne sur ce phénomène-là. C'est-à-dire, et là pour le coup, on arrive un peu à la question du temps. C'est que le Disque rayé, c'est un disque temporel en quelque sorte. C'est un livre sur un paradoxe temporel. Mais un livre sur un paradoxe temporel, qui est un paradoxe temporel non pas simplement qui représente pas simplement l'idée qu'on revient au début et qu'on se cause soi-même même si c'est le fondement, la logique de ce paradoxe, c'est la représentation de la façon dont, d'une réalité à une autre, il peut y avoir progressivement des effets une sorte de progrès nécessaire causé. J'ai le temps tout à l'heure de lire le passage sur les improbables, on verra un peu cette logique-là.
Ça dans un deuxième temps.
Mais la logique du disque rayé, c'est déjà, que j'évoque là, et, utilise aussi cette logique-là, qui est que une réalité qui n'existe pas peut chercher à se causer en influençant d'autres réalités, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a une sorte de manière de décaler dans le temps et dans l'espace les relations de cause à effet. Donc, c'est assez audacieux et pas forcément d'ailleurs très hard science. Hein, c'est plutôt un jeu avec les images de la science-fiction, mais il y a cet effet-là. Et alors, je dirais un dernier mot parce que c'est pas forcément structuré comme une démonstration, mais je dirais un dernier mot d'une caractéristique essentielle. Alors, c'est le paradigme médical. Je ne vais pas donner tous les exemples, bien sûr, mais on peut repérer, on l'a déjà vu avec Brebis galeuses, il y a un imaginaire du médical chez André Rouelland qui est assez particulier et assez spécifique, parce que finalement, ce n'est pas quelque chose de si répandu dans la science-fiction. C'est pas absent de la science-fiction, mais là vraiment c'est un imaginaire médical. On l'a vu pour les maladies, mais ça vaut aussi pour un paradigme biologique en général. La motivation profonde de la recherche, de la quête épique des armes d'Orthogue, c'est un problème de natalité. C'est-à-dire, la natalité est en baisse, pourquoi va-t-elle se baisser? Dans Tunnel également, il y a un problème de natalité, il y a un problème de reproduction. Et le personnage principal...
On reparlera, si on a le temps, de Tunnel tout à l'heure, parce que c'est un roman dont j'aimerais dire un mot. Je vais me permettre de couper.
J'aimerais juste finir une chose sur la reproduction. J'aimerais parler d'une chose, un dernier exemple dont on ne reparlera pas, qui est Les Océans du Ciel, qui est un roman qui n'est pas forcément très mis en avant pour André Rubelan. Mais c'est un roman qui est fascinant parce que c'est un roman d'enquête ethno-biologique. Et ce qui est formidable dans ce qu'il représente, c'est le fondement, la logique des océans du ciel, c'est ça s'appuie sur la méconnaissance d'un cycle biologique qui unit deux planètes en fait, ou une planète et son satellite, je ne sais plus, qui fait que les individus en fait se reproduisent sur cette planète par transhumance de gamètes d'une planète à une autre. Mais ils ne se rendent pas compte au début qu'ils comprennent pas ce phénomène, et donc du coup ils en viennent à compromettre leur propre cycle de natalité parce qu'ils ne comprennent pas cette logique là et donc l'enquête est une enquête finalement biomédicale dans un contexte de space opéra.
Merci. Je vais donner la parole à Olivier Cotte qui va nous parler de quelque chose de complètement différent et peut-être un peu inattendu, mais qui nous a semblé important d'évoquer. Il s'agit de Marie Mathématique.
Oui, alors, juste un petit mot avant. J'ai rencontré André quand je suis arrivé au déjeuner de lundi en 89, donc ça fait près de 30 ans. Et il y a un point qui m'a toujours plu chez André, c'est le fait que, malgré une certaine forme de nihilisme, malgré un pessimisme concernant l'avenir de l'humanité, malgré des opinions qui pouvaient être franchement du côté de l'anarchie, malgré finalement une sorte de désillusion, j'ai rarement rencontré quelqu'un en fait qui soit aussi gentil et qui soit désireux d'aider les autres. Il a toujours lu mes textes avec bienveillance, il m'a toujours aidé, et je profite de ce moment pour lui dire que je suis je suis redevable et qu'il m'a vraiment profondément marqué pendant toutes ces années. Voilà, ça c'était la minute émotion, mais je voulais quand même le noter. Bref, il manque.
Alors,
Marie
Mathématique, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a, dans les années 60, à l'époque où la télévision publique, qui comptait finalement peu de chaînes, faisait un vrai boulot, il y avait une modernité qui était évidemment dans le rythme de l'époque. Et il y a eu une émission qui a duré quand même de 65 à 70, qui était extrêmement contemporaine, qui était Dim Dam Dom, créée par David Gallard. Alors, dedans, il y avait un certain nombre de grands créateurs, je pense notamment à Peter Knapp, qui était un photographe et qui a été aussi directeur artistique de Elle, qui l'a vraiment porté dans la modernité pendant une quinzaine d'années. Et à l'intérieur de Dim Dam Dom, au début, ils ont fait une petite expérience qui est une série de 6 courts films d'animation, alors très peu animés, c'est-à-dire vraiment on a finalement principalement des décors, quelques phases d'animation et puis des systèmes de cellulos pour amener des lumières, que ça clignote, amener quelques éléments dynamiques. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le concept, c'est-à-dire que cette petite série est et diffusé de fin 65, c'est-à-dire en fait je crois que c'est octobre 65 jusqu'au printemps 66. Il y a André Rueland qui écrit les poésies, Serge Gainsbourg écrit la musique et également lit les textes d'André Rueland pendant le déroulement de ces épisodes. Le graphisme est signé Jean-Claude Forest, et en fait Marie Mathématique n'est ni plus ni moins pour Forest que la petite sœur de Barbarella, qui a à peu près hérité de toutes ses qualités en mieux. Elle a 16 ans et c'est, comme on le dit dès le premier épisode, des aventures d'une jeune fille comme il faut. Alors je vous laisse imaginer, sachant que quand même la série est quand même une allégorie de la découverte de sa sexualité, ce qui pour l'époque quand même, on se remet dans le contexte, mi-60 est assez culotté s'il y en a encore. On regarde ?
On va regarder le premier épisode de Marie Mathématique.
Attends, tu n'as pas cité Christophe Averty qui a joué un rôle colossal dans toute cette histoire.
Dans Marie mathématique, non.
Peut-être pas dans son Marie mathématique, mais sur l'émission et l'accueil de Topor, et d'ailleurs même l'accueil d'André.
Enfin, oui, mais c'était pas. Je ne parlais pas de Dame d'homme dans son ensemble. Dans la série, par contre, Marie mathématique était réalisée par Jacques Anzan.
Vous qui m'entendez, venez étendez l'oreille. Je suis du futur, comme est de l'azur. L'abeille, le nouveau Paris dans son paradis, sommeille. Il connaît pourtant au moins une enfant qui veille. Car Marie mathématique aura 16 ans dans 1000 ans. Et combien seront magiques ces présents. Printemps fait l'oiseau, fleur de coquelicot, lierre, tout l'été venu ce fruit défendu peut plaire. Car l'automne il pleut à feuilles qui peut ma chair, l'hiver est là qu'il met déjà en terre. Pour Marie-Math l'enfant sage, c'est l'oiseau quatre plumages. L'escalier du temps porte les enfants au rêve. Ces degrés futurs dans un clair-obscur s'élèvent, mais de les gravir donne à l'avenir un glaive. Si vous descendez, voici du passé la sève. Marie-Math, aventureuse, reconnaît qu'après l'exil, un présent rend plus heureuse qu'un péril. Je voulais te voir au fond d'un miroir, ma belle. S'il fallut que l'image fût fidèle, ainsi te voilà volée en éclats si frêle que tu vexerais la plus fine des dentelles. Mais les lunettes ôtées, Marie-Math est recollée. Les astres rôdeurs sont couverts de fleurs, volages, qu'une onde flétrie plus vite qu'ici l'orage. Mais quand la saison ouvre à ses poissons la cage, triomphe la nuit qui tourne à midi sa page. Pour Marie-Math, angélique, charmeuse de ciel nouveau, un voyage en italique finito. Robe de frisson, mieux que le vison tu laisses un goût d'élixir dans un souvenir de liesse. Mais il faut déjà se priver de ta caresse, alors qu'on voudrait goûter tes bienfaits sans cesse. Et Marie-Math, égarée, rend sa robe à l'assemblée. Thank you. gentil robot offre pour cadeau de fête ce qu'il faut greffer quand on veut changer de tête. Mais comment savoir où le désespoir s'arrête lorsque vos amis ne savent plus qui vous êtes? Et Marie mathématique prend un mari mécanique.
Voilà, Marie mathématique, donc dessin animé de science-fiction écrit par André Orvelan. On va conclure cette table ronde en évoquant quelques livres. Je souhaitais dire un mot de Tunnel, roman qu'on a évoqué tout à l'heure et que je trouve tout à fait remarquable. C'est un livre qui s'ouvre sur une scène saisissante. On a un couple en train de discuter, de se disputer gentiment au pied d'une croix sur laquelle est cloué un homme. Et on comprend qu'en fait, on se trouve rue de Rivoli et que des centaines de croix sont plantées des deux côtés de la rue sur plusieurs kilomètres. Des crucifiés sont là. On est dans un futur proche où la nuit, des bandes rôdent et commettent toutes sortes d'exactions, et quand le pouvoir les attrape, on les crucifie. Le début de ce roman, c'est la vie quotidienne de ce couple. Lui est médecin, elle est journaliste. Et puis il y a une première cinquantaine de pages assez nonchalantes où on trouve là le goût d'André Orvelan pour la satire, pour des dialogues un peu piquants. Et puis à un moment donné, un drame totalement inattendu se produit. Et là, le roman bascule. Le héros se trouve en fuite avec sur l'épaule le cadavre de sa femme qu'il garde avec lui et qu'il essaye de maintenir en vie bien qu'elle soit morte. Il se retrouve à se cacher dans des tunnels. Puis à rejoindre malgré lui les crânes, ces voyous qui la nuit commettent des meurtres et finit par choisir d'en devenir un lui aussi. C'est à la fois une histoire d'amour tout à fait forte et étonnante, et puis un roman de science-fiction plein de visions et de choses inattendues. Il y a un moment notamment où le personnage est assailli par des pensées intérieures qui prennent possession de son cerveau, et il entend comme une sorte de parole qui est la sienne mais sur laquelle il n'a pas de maîtrise. Et là, André Orvelan écrit des pages très étonnantes qui relèvent presque de l'écriture automatique et qui là sont très éloignées de ce qu'on pouvait lire au Fleuve Noir par exemple, et littérairement c'est tout à fait intéressant. Je vais vous lire un très très bref passage de Tunnel, et puis ensuite je vais donner la parole à Simon qui va nous parler en quelques minutes des improbables. Manuel le suivit. Arts, la moustache tirée par un sourire radieux, lui ouvrit des portes qui donnaient sur d'étranges salles. La première salle était consacrée à la lumière. Elle ne contenait aucun objet, aucun meuble, mais les rayons, les spots, les halos, les nappes diffusées, les réseaux, les flux à polarisation intermittente, les petits plasmas flottant au gré des interjections et des apostrophes, tout cela menait un balai multicolore autour d'une lanterne sourde posée à même le sol au centre. La pièce suivante, aucun bruit ne s'en échappait, mais en y entrant, on était assailli par des sons d'une variété infinie qui changeaient qu'avec la place que l'on occupait. Arts désignait à Manuel des points de l'espace définis par les trois coordonnées spatiales et par le moment. Manuel y venait mettre son oreille et entendait tour à tour le frottement des pattes d'une mouche qui fait la toilette de ses ailes, l'enregistrement du bruit d'un tremblement de terre, le cri d'agonie hertzien des huîtres que l'on mange, un fragment du quatrième quatuor de Beethoven, l'absurde péroraison d'un discours politique, le bruit des ongles qui poussent. La troisième salle n'était qu'un tourbillon d'odeurs organisé en sonates, en palettes, en gifles. Voilà, Tunnel, que je vous recommande. Simon, quelques mots sur les improbables.
Oui, alors, les improbables fait partie des romans temporels d'André Orvelan, je laisse découvrir, parce que finalement c'est le récit d'une guerre temporelle entre deux nations très étranges. Un des effets du voyage dans le temps, nous explique André Orvelan, c'est qu'on manque de certaines protéines, et du coup il représente des civilisations cannibales, c'est-à-dire qu'ils mangent leurs ennemis pour essayer de reconstituer leurs protéines par un cycle un peu étrange. Indépendamment de cette question, puisqu'il est question de temps, et justement, donc, je parle des romans temporels d'André Orvelan, je voulais simplement lire une explication, une version du temps selon un personnage. Je ne fais pas de contexte, je laisse découvrir simplement le plaisir de l'abstraction dans ce petit passage. Donc c'est une explication finale à la fin du roman. Le temps n'est pas un flux qui coule selon une ligne et toujours dans le même sens. C'est une dimension en étoile dont le non-temps occupe le centre. Tous les événements de tous les siècles sont en quelque sorte simultanés à partir de cet angle de vision spécial. Le faisceau des causes s'enchevêtre à chaque instant pour donner naissance à une infinité de possibilités situées dans autant de mondes parallèles. Mais ces mondes ont un degré de réalité en rapport avec le degré de probabilité des effets. Les conditionnels sont des êtres issus de ces mondes et ils cherchent à infléchir la chaîne des causes en leur faveur, afin d'atteindre à une réalité supérieure, repoussant ainsi les autres dans un semblant d'existence qui confine au néant. Ce sont d'autres manuels, alors on trouve le prénom Manuel, ce sont d'autres manuels, d'autres Gélia qui ne se connaissent pas, qui nous ont environnés au point crucial et qui ont tenté de nous rejeter à leur place. En ce qui concerne ces êtres, je devrais les appeler les improbables et non les conditionnels, ils peuplent les interférences entre les mondes parallèles et ne peuvent fort heureusement agir qu'au niveau du voyage, jamais dans la réalité concrète d'un continuum défini, chose que nous, créateurs de Manoun, parvenons à faire. Cela nous permet de connaître la ligne générale des événements, donc de l'infléchir en remplaçant ça et là une probabilité par une autre. Manoun, donc qui est l'utopie inverse des peuples cannibales dont j'ai parlé, est peuplé d'hommes et de femmes comme vous qui ont agi selon une direction précise. Nous connaissions cette direction, parfois nous l'avons complètement modifiée, mais même dans votre cas où je n'ai eu qu'à suivre les plus fortes probabilités, il fallait que les événements fussent vécus par vous pour que vous puissiez apporter à Manoun une quantité supplémentaire d'existence. Il me semble que c'est une vision un peu originale de la question de la guerre temporelle. Voilà.
Absolument, merci beaucoup. On va conclure là cette... Oui Gérard. Une minute pour Gérard.
Une minute. Je veux insister sur le côté presque familial de l'environnement d'André Ruellan, puisque Annie Ruellan était la sœur de la femme de Jean-Claude Forest. Et l'homme dont je cherchais tout à l'heure le nom, c'était évidemment Julien Forest, qui est neveu et l'héritier d'André. Topor faisait partie de la famille, je crois que j'en faisais partie aussi. Enfin, Curval, enfin quelques autres. Donc, et puis, nous avons fait film avec Moki, moi de mon côté, lui, Lucien, sans qu'il y ait aucun rapport. Donc, c'est un milieu très, très, très serré, très étroit et extrêmement vivant intellectuellement.
Merci Gérard, merci à tous. Je remercie Gérard Klein, Simon Briand, Natacha Vazder et Olivier Cotte. Merci également aux personnes qui m'ont fourni quelques documents pour le diaporama, notamment Alain Sproel, Hélène Herzfeld et Jackie Paternoster. Merci à tous. Voilà.